Bienvenue sur Campus Max sur Radio Campus Po, 98.8 sur vos radios. Nous nous retrouvons ce mercredi 14 février avec Hélène.
Salut.
Et moi-même, Benoît. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tour de l'actualité internationale et locale.
Nous allons commencer par faire un tour rapide des actualités internationales. Comme vous le savez certainement, aujourd'hui c'est la Saint-Valentin. Nous sommes en effet le 14 février et cette date est associée, dans nombreux pays, à la fête des amoureux. En ce jour, il est coutume de démontrer son affection par le biais de mots doux et souvent de cadeaux. C'est aussi un moment de solitude pour ceux qui, hélas, sont célibataires. Cette date est dédiée à l'amour mais peut être critiquée, comme la plupart des fêtes, comme étant commerciale. Pour certains, ce jour est synonyme de football, souvent un match important du PSG en Ligue des Champions est diffusé. Mais pourquoi le 14 février est-il communément associé à l'amour ? C'est une tradition bien attestée depuis le XIVe siècle en Angleterre et le XVe siècle en France. À l'origine, c'est Charles d'Orléans, prisonnier à Londres, qui parle le premier de la Saint-Valentin en France. La légende raconte qu'il aurait fait le lien entre l'amour et ce saint en raison du prénom de sa mère Valentine. Aussi, c'est assez courant d'associer au printemps et au réveil de la nature les amoureux. La tradition voulait que les oiseaux fassent leur nid le 14 février. Cela tombait la fête d'un certain Valentin et on a inventé des belles histoires pour justifier le fait que Valentin devienne le patron des amoureux. Ce sont des reconstitutions tardives. Cette fête est devenue une mode internationale depuis une cinquantaine d'années. Elle est popularisée à partir du 19e siècle en Angleterre. Les amoureux utilisaient des lettres pour exprimer leurs sentiments et c'était l'occasion de se déclarer lorsqu'on était un peu timide. C'est récent que cela soit devenu la fête des amoureux de tous les âges.
La série The Last of Us a été reconnue par l'industrie en remportant 8 Emmy Awards lors de l'édition 2024. Malheureusement pour Naughty Dog, la course au trophée a été récourtée puisque l'adaptation a dû capituler au cours des Golden Globes 2024. La concurrence était très rude, l'autre carton de HBO de ces dernières années, Succession, a été priorisé, mais les plans pour la saison 2 ne bougent pas et le tournage a d'ailleurs normalement commencé. Après une première saison acclamée, le retour de la série The Last of Us est très attendu. Les nouveaux venus dans l'univers de Naughty Dog ont hâte de découvrir la suite des aventures de Joel et Ellie. Les fans vont être pressés de voir comment vont être mis en avant les événements du jeu The Last of Us 2, mais surtout une séquence qui a choqué beaucoup de monde lors de la sortie et même encore maintenant. Pour cette saison 2, la production s'est déplacée en Colombie-Britannique, une province à l'ouest du Canada, et a apparemment sorti les gros moyens. Selon les images qui ont été prises en janvier dernier, la ville de Jackson a entièrement été recréée par les équipes. Un lieu important où l'on assiste à une danse entre Ellie et Dina qui dégénère et montre les tensions entre Joel et sa fille adoptive. Une surprise en vue. D'après la déclaration de Neil Druckmann, c'est bien possible. Pour teaser un peu, je dirais qu'il y a eu au moins un élément d'un niveau coupé qui est prévu pour la série. Via Entertainment Weekly, à quoi fait-il référence ? Aux Lost Levels de Last of Us 2 sur PlayStation 5 qui sont partis, qui avaient été coupés par Naughty Dog, des portions qui prendront peut-être vie à travers la série HBO ou pas. Le directeur créatif a tout de même précisé que ce n'était rien gravé dans le marbre jusqu'au tournage, mais ce serait une belle surprise pour les fans, et également une opportunité pour l'adaptation de se différencier du jeu original. La saison 2 de la série The Last of Us sera diffusée et prévue en 2025.
Voici ce qui se passe en France. Le député des Républicains, Antoine Vermorel-Marc, a fait une nouvelle proposition de loi contre la fast fashion, et plus précisément, Shein et Temu. Il souhaiterait l'instauration d'un système de bonus-malus en fonction de l'impact environnemental des marques. Il déplore l'incitation à l'achat notamment par le biais de hauls diffusés sur les réseaux sociaux. Ce que l'on appelle haul s'agit de vidéos où les influenceurs montrent leurs achats compulsifs dans des mises en scène souvent rémunérées. Ainsi, ils ouvrent des cartons remplis de vêtements pour vanter un des 470 000 modèles disponibles du site. Avec un prix moyen estimé à 7€ par article et des milliers de nouveautés proposées tous les jours avec l'aide de l'intelligence artificielle ciblant les goûts des consommateurs, Shein pousse à la surconsommation. On achète beaucoup, en une seule fois, pour rentabiliser la livraison et on achète régulièrement. Sans compter les conditions déplorables dans lesquelles sont les employés chargés de la confection de ces vêtements qui ne peuvent être aux normes et présentent des dangers pour l'environnement et la santé. Shein et Temu particulièrement sont une aberration écologique et des droits humains, ce n'est plus un secret pour personne. Antoine Vermorel-Marc veut alors responsabiliser les consommateurs. On est sûr de l'usage unique, de l'ultra fast fashion, c'est j'achète mon t-shirt, je le porte une fois et je le jette à la poubelle, dénonce-t-il. La qualité des vêtements produits en masse est moindre et ne permet pas un usage durable. L'élu dépose une proposition de loi au titre évocateur « Démoder la fast fashion avec un système de bonus-malus ». Ce texte doit être débattu début mars, lors d'une semaine transpartisane à l'Assemblée nationale. Selon le député, le sujet parle aussi bien à la droite qu'à la gauche, car il s'agit de réconcilier réindustrialisation et écologie. Il souhaite un retour de la mode éco-responsable. Le principe de cette proposition serait de taxer 5 euros chaque vêtement acheté sur ces sites. Ce qu'on préconise, c'est un système de bonus-malus. Vous achetez un t-shirt sur une des grandes plateformes en ligne qui n'a pas de boutique en France. C'est un t-shirt qui pollue énormément, donc on va mettre un malus sur le principe du pollueur-payeur, explique-t-il. En revanche, si vous achetez un t-shirt respectueux de l'environnement, des normes sociales et environnementales, vous aurez un bonus. Les vêtements fabriqués dans de bonnes conditions en France ou en Europe écoperont d'un bonus ou d'une aide à l'achat. L'association Zero Waste France a salué cette proposition de loi. Cependant, il existe un enjeu pour les personnes les plus démunies n'ayant pas forcément le budget nécessaire à l'achat de vêtements responsables. Ceci risque de ne pas plaire à tout le monde.
Engagée pour la planète et passionnée de permaculture, Maëlle Loiseau confectionne des objets insolites de décoration à partir des légumes de son jardin en Lot-et-Garonne. Depuis qu'elle habite à Sainte-Marthe, dans le Lot-et-Garonne, dans une maison qu'elle rénove de façon vertueuse, Muriel Loiseau cultive aussi son jardin de façon naturelle. Dès le début de sa démarche, il y a 12 ans, elle a commencé à collectionner des graines anciennes que l'on trouve parfois plus dans le commerce. Ce n'est pas comme les graines de ces grandes marques qui en font un monopole, commente-t-elle. En effet, celles-ci sont récupérées de troc en troc pour conserver les espèces. Muriel dit avoir plus de 250 graines d'espèces différentes. À ce jour, le jardin lui fournit une quantité nécessaire pour être presque en autosuffisance alimentaire. Mais Muriel, qui se définit comme une artiste jardinière, engagée, passionnée par la nature et création, va encore plus loin dans la démarche éco-responsable. Dans son jardin âme, le jardin qui a une âme de 400 mètres carrés, Muriel cultive des légumes, des plantes médicinales en biodiversité, en permanence et en parfaite harmonie pour sa propre consommation et pour ses créations artistiques. Parmi les trésors de son potager, Muriel possède en effet plus d'une dizaine de variétés de graines calebasse. C'est un légume de la même espèce pour les courges et les courgettes qui donnent souvent des formes remarquables et surprenantes. Une fois séchées, les calebasses sont la matière la première pour mes créations, explique-t-elle. Après avoir semé les graines de diverses variétés au printemps, Muriel les récolte à l'automne. Une étape de séchage d'environ 6 mois est nécessaire et la calebasse devient dure comme du bois. Alors l'artiste jardinière la travaille à la main et la constitution de son cœur à l'aide d'un outil électrique multifonction. Parmi ses créations, en bois de calebasse, Muriel fabrique des sacs à main originaux, des boîtes, des bijoux, des vases, des nichoirs à oiseaux et différents objets de décoration. Muriel peut également réaliser les créations personnalisées ou un thème au choix. Ces lampes végétales sont parmi les créations les plus surprenantes. Les motifs sculptés ressemblent à des dentelles finement découpées selon l'inspiration du moment. Après de nombreuses heures de travail et en fonction de leur forme, de taille très différente, les calebasses sont montées en lampes suspendues ou à poser. De chacune se dégage une ambiance zen, douce et féerique. Chaque pièce est unique et éco-responsable, sans aucun traitement ni vernis ou peinture, mais simplement une huile végétale bio afin de conserver sa beauté au naturel. Après avoir évoqué l'actualité française, nous allons nous focaliser sur l'actualité locale. Le département des Pyrénées-Atlantiques a décidé de fermer la route de la Corniche en raison de la vigilance orange vague submersion mise en place ce week-end. La route de la Corniche est fermée depuis 15h ce samedi 10 février. Des études vont être menées durant toute la semaine afin de vérifier si l'ouverture est de nouveau possible ou si la fermeture est prolongée. La vigilance orange vague submersion par la préfecture des Pyrénées-Atlantiques pour la journée de dimanche a entraîné la fermeture de la route départementale 912 ce samedi 10 février en raison de l'application du protocole de fermeture préventive de la route de la Corniche. Des itinéraires alternatifs ont été mis en place pour la RD810 et la RD658, dite route de la glacière. La fermeture est prolongée jusqu'à la semaine du 12 au 18 février afin de mener les investigations géotechniques nécessaires sur la réouverture de l'axe dans les conditions de sécurité vérifiées conformément à disposition du protocole. Le département précise que les équipes mettent tout en œuvre afin de limiter la gêne occasionnée.
Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Nous espérons que vous avez passé un bon moment. Nous vous retrouvons prochainement pour une nouvelle émission. En attendant, vous pouvez réécouter le podcast ainsi que les précédents sur radiocampuspo.fr et vous pouvez suivre Radio Campus Po et Campus Mag sur Instagram. Bonne soirée à tous.